Paix sur toi, j'interromps cet épisode juste extraordinaire pour t'annoncer que je fais une conférence historique le 7 septembre à l'Olympia. Tu as bien entendu, dans la salle mythique de l'Olympia, le 7 septembre 2024. Pour nous rejoindre, j'ai mis le lien sous cet épisode. Rejoins-nous vite et rapidement parce que les places sont limitées. Ça va juste être extraordinaire et on va parler de mémoire et surtout comment ta mémoire est illimitée. Je compte sur ta présence. À très vite.
J'ai battu le numéro un mondial. En battant le numéro un mondial, je lui ai pris sa place.
Et combien d'années entre le moment où tu te mets à faire du tennis et à numéro 1 et ce titre de Grand Chelem?
Ce titre du Grand Chelem, c'est 7 ans plus tard, en 2012. En quelques mois, j'étais 37e mondial. Et en un an et demi, j'étais 3e.
Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphane Houdet, qui est champion olympique, champion du monde, qui a gagné plus de 24 tournois du Grand Chelem et qui est bien sûr joueur de tennis professionnel. Et aujourd'hui, on va parler de son parcours, de comment il en est arrivé là. Et aussi, il a une petite particularité parce que il est champion olympique et plutôt paralympique. Et on va parler de tout ça. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mohamed.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas?
Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai passé ces derniers jours au soleil et je viens d'arriver à Paris. Et
Ça
je
a
suis
dû
arrivé.
piquer. Ça,
Pardon?
le changement de température, ça a dû être dur.
Ouais, presque 30 degrés, mais j'ai l'habitude.
Effectivement. Je pense que le sport te fait beaucoup voyager.
Oui, tout à fait. On n'a pas encore trouvé de solution pour participer aux grandes épreuves en un même lieu, donc malheureusement on est toujours à gauche à droite.
Effectivement. Alors moi, je t'ai présenté avec mes mots. Est-ce que j'aimerais bien que tu te présentes toi, qui tu es aujourd'hui?
Bah, je pense que tu as fait la bonne présentation. Il se trouve que effectivement il y a un distinguo entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Tout petit, même si j'étais joueur de tennis et que j'ai certainement rêvé de gagner Roland-Garros comme Yannick Noah, que j'avais vu remporter en 1983 le titre, un jour de fête des mères. J'avais pas imaginé que un jour je puisse faire la même chose, mais dans un fauteuil roulant. Et évidemment, j'ai jamais rêvé de titre olympique, de titre, pardon, j'ai jamais rêvé de titre paralympique. Mais il se trouve que à la suite d'un accident moto, j'étais vétérinaire de profession. Et à la suite d'un accident de moto, je me suis retrouvé à continuer la pratique sportive et mes premières amours, qui étaient la balle jaune et le tennis, mais avec un nouvel outil de déplacement, un fauteuil roulant. Je suis amputé fémoral et il se trouve que le tennis paralympique a choisi, quelles que soient nos différences, de faire que tout le monde pouvait s'asseoir dans un fauteuil et jouer. Et donc voilà, c'est ma pratique, je m'éclate avec ça. Et effectivement, je fais le tour du monde depuis de nombreuses années maintenant, puisque j'ai commencé en fauteuil en 2005 et que je prépare les Jeux à la maison l'année prochaine, en 2024.
Que là, aujourd'hui, t'as quel âge?
Donc bah, là, je ne suis pas le plus jeune de la bande. Je suis né en 70.
D'accord.
Donc je te laisse faire le calcul parce
Okay. T'as
que
dépassé la
c'était
barre
mon
des 5 ans.
anniversaire il n'y a pas longtemps et ça commence à...
Non, parce que c'est fou, parce
Oui.
que dans le tennis ou dans les sports, dans le tennis de manière générale, un joueur à 35, 36, 37, il commence à penser à la retraite. Dans le sport paralympique, voilà, je vois que tu dures, on peut durer beaucoup plus longtemps.
Alors, c'est un excellent parallèle puisqu'en ce moment, notre numéro un, Novak Djokovic, est en train de montrer qu'à 36, il continue à dominer son sport. La particularité pour moi, enfin pour notre sport en général, mais pour moi, je vais être précis, c'est que comme on joue assis ou à genoux dans mon cas, parce que j'ai un fauteuil spécial, mais on en parlera tout à l'heure, la dépense énergétique, d'une part, est moindre. Et on n'est jamais dans le rouge sur le plan cardiaque, simplement
D'accord.
parce qu'on est porté par la machine, Et même si on a des efforts qui sont longs, à la fois dans les déplacements et dans les coups, en fait, le cœur monte très peu.
D'accord.
Donc, j'ai pas de problème de ce côté-là. Je vais avoir éventuellement une saturation musculaire, mais j'ai pas ce paramètre qu'ont les joueurs de tennis et les athlètes en général où, en fait, ce qui consomme le plus d'énergie, ce sont les quadriceps. C'est souvent au niveau des membres inférieurs que les athlètes fatiguent. Et donc, la particularité de mon sport fait que j'ai pas, ce bémol. Autre point en ce qui me concerne, c'est qu'une fois que j'ai fini ma pratique assis, j'enfile ma prothèse et je me promène debout. Et en me promenant debout, finalement, je repose mes membres supérieurs, qui sont ceux que j'utilise tout le temps en poussant le fauteuil et en faisant mes coups. Donc, j'ai un double avantage. Et c'est vrai que là, je mène une expérience, je ne sais pas combien de temps je vais durer, mais sur le plan physique, je dure et même très étonnamment, je suis parfois le moins fatigué des tournois ou des paires de doubles quand on joue à 2 contre 2. C'est
D'accord.
assez étonnant.
Ouais, c'est assez étonnant, effectivement, comme toi, tu as ce parallèle où tu es avec une prothèse, où tu peux marcher, ouais, tu vis normalement, entre
Oui.
guillemets, et après, c'est uniquement quand tu fais du sport que tu vas être en chaise roulante pour pouvoir faire…
Exactement. Le parallèle que je fais, c'est comme si je montais sur un cheval pour jouer au tennis ou si je montais dans une voiture pour faire une course. J'ai un outil de déplacement qui est sur roulette, mais le reste du temps, je marche.
Je voulais revenir sur le avant ta carrière professionnelle parce que aujourd'hui, donc tu faisais du sport, tu aimais faire du tennis, tu avais ta double carrière étudiant, après tu as été vétérinaire, tu as eu un accident et d'après ce que j'ai compris, c'est tu avais donc un problème au genou et c'est toi qui as décidé de te faire amputer ou peut-être, voilà, je voulais savoir, est-ce que c'est exactement ça?
Oui,
Et
c'est
comment on prend une décision comme ça pour…
ouais. Alors, c'est vrai que ça, c'est très surprenant quand on le raconte comme ça. Mais en fait, le parcours est assez logique et on a de plus en plus de cas qui ressemblent au mien. À savoir que donc j'ai eu un accident de moto et à la suite de l'accident de moto, je n'avais plus de genou.
D'accord.
Les chirurgiens ont récupéré ou les médecins, les urgentistes ont récupéré ma jambe sur la chaussée. Et donc j'étais avec une fracture, c'était complètement à 90 degrés, je n'avais plus de genou, mais il restait un bout de peau. Donc ils ont réussi à remettre, tant bien que mal. Ils ont utilisé un dispositif un peu comme des mécanos, on appelle ça des fixateurs externes, et ils ont reconstitué un semblant de membre inférieur. Donc j'avais toujours ma jambe gauche, mais sans genou, sans pouvoir relever le pied et avec beaucoup de difficultés pour marcher, ce qui fait qu'à la fin, ils ont même mis un clou dans toute la jambe qui partait du haut du fémur jusqu'à la cheville et ce clou traversait le plateau tibial. Donc j'étais avec ce qu'on appelle une jambe raide
OK.
et donc je me suis reconstruit comme ça, mais avec mon parcours aussi de vétérinaire, je me disais quand même, c'est étonnant. Je pense que je laisserais pas un chien dans cet état-là. Et donc, je passais mon temps à chercher des solutions. Est-ce qu'il était possible de mettre une prothèse interne? Est-ce qu'il était possible de faire une greffe de membre inférieur? Est-ce qu'il était possible de trouver un système de ligaments?
Sûr.
Donc, je cherchais des solutions jusqu'à ce qu'un chirurgien me dise, bah, le mieux pour vous, c'est une prothèse, c'est un membre externe, simplement, donc une amputation. Mais sachez que tous les amputés au-dessus du fémur, à 50 ans, ils sont dans un fauteuil roulant. Et donc là, moi, j'avais une trentaine d'années. Et ça m'a fait reculer. Et ça m'a fait reculer d'autant plus que je jouais à l'époque au golf. Et donc la discipline, on appelle ça le handigolf, le jeu comme ça. Et je voyais de nombreux amputés au-dessus du genou, et il n'y en a aucun qui me faisait rêver. Je trouvais qu'il ne marchait pas très bien, que ça n'avait vraiment pas l'air confortable ni pratique. Et en plus, pour jouer au golf, c'était l'enfer. Donc c'était mon sport de l'époque. Jusqu'à ce que finalement, tout à fait par hasard, sur un parcours pendant un championnat d'Europe, à côté de Strasbourg, sur le golf de la Venselo, j'ai croisé un joueur qui marchait, un amputé fémoral qui marchait super bien. Il était en short, en Bermuda, je voyais très bien sa prothèse. et il marchait super bien. Donc je suis allé le voir et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi c'est ta rééducation? Pourquoi toi tu marches mieux que les autres? Raconte-moi ton histoire. Et en fait, son histoire, c'est que ce gars-là venait d'avoir la prothèse qui était sur le marché, mais pour laquelle je pensais qu'elle était uniquement du domaine de la recherche et qu'elle n'était pas commercialisée. Il venait d'avoir cette nouvelle prothèse électronique.
D'accord.
Et alors que pendant 3 ans, il avait vécu avec une jambe raide douloureuse, il m'avait dit, j'ai pris la décision de me faire amputer et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Ah, donc là, j'étais un peu sous le choc en me disant, mais c'est ce qu'il me faut. Si je fais une approche fonctionnelle de tout ce que toi tu peux faire, de ce que moi je fais, je pense que ton système est mieux que le mien. Et donc, j'ai rappelé, non pas le chirurgien parisien qui m'a proposé l'amputation et le fauteuil à 50 ans, mais le chirurgien qui s'était toujours occupé de moi. Et je lui ai raconté l'histoire, j'ai filmé le gars, je l'ai filmé en train de marcher, en train de jouer au golf. Et il m'a dit, t'as raison, on va faire ça aussi. Et je lui dis, mais Didier, ça fait 8 ans que tu me dis non, pourquoi tu me dis oui aujourd'hui? Parce que ça s'est passé 8 ans plus tard. Il me dit, bah, c'est simple, on sait que ton cas sur le plan médical, on ne pourra rien faire de mieux. On sait aussi toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui avec cet enclouage hein, dans toute la jambe. Je pense même qu'un jour, tu devras subir une amputation et peut-être même une amputation traumatique si jamais
Oui,
le
c'est pas
clou se
voulu.
casse et on aura beaucoup de problèmes. En revanche, j'ai aussi vu, puisque c'était en 2004, les Jeux paralympiques, tous les progrès qu'on a pu faire sur les prothèses. Je pense que toi, tu as fait un cheminement aussi ces 8 dernières années. Et donc, comme toi, je pense que c'est le mieux.
D'accord.
Alors, je lui dis, bah, ok, c'est parti. On a eu cet échange au mois de septembre.
D'accord.
Et le 28 décembre 2004, comme un cadeau de Noël, eh bien, il m'a opéré. Donc, on peut dire que j'ai surtout fait le choix de la date, c'est-à-dire que je savais qu'un jour je serais amputé, mais plutôt que d'être amputé à 50 ou 60 ans,
Être contraint et de faire de force, entre guillemets, parce que le médecin te dit c'est obligatoire, tu dois le faire maintenant et ne pas le vouloir. Là, tu l'as fait en le voulant et avec un objectif.
voilà. Ce qui m'a permis aussi d'échanger avant avec un prothésiste, de parler des différentes prothèses, de faire aussi que le chirurgien échange avec le prothésiste pour savoir exactement ce qu'il allait pouvoir faire comme type d'amputation, ce qui était le mieux.
Effectivement.
Et donc, il y a eu un collège de compétences, on a fait ça ensemble. Et voilà, je l'ai reçu comme un cadeau de Noël le 28 décembre 2004.
Wow. Et comment après tu te relèves de ça? C'est-à-dire que quand tu es amputé, tu dois réapprendre à tu dois apprendre à marcher avec cette prothèse. Il y a toute une
Alors, première chose, c'est
éducation.
que déjà, à la suite de l'opération, au réveil, avant même de me relever, je me suis rendu compte que j'avais dormi en chien de fusil sur le côté, qui était ma position préférée tout gamin, que je ne pouvais plus adopter, tout simplement parce que avec le dispositif et la jambe raide, mon
Tu peux pas.
pied, je pouvais pas me mettre sur le côté. En plus, j'avais ce qu'on appelle un ostéome qui était assez douloureux, donc je pouvais pas faire ça. Et donc là, bon, c'était un réel bonheur de me réveiller comme ça. Ensuite, je me suis mis debout. J'avais pas encore de prothèse, mais je mimais des gestes de golf et j'imaginais la liberté dans le bassin et en plus la douleur qui venait d'être supprimée. Donc c'était mon réveil et le début de ma relève. Ça s'est passé quand même en 2 temps, puisqu'il faut attendre qu'il y ait une cicatrisation avant de pouvoir essayer une prothèse. Et j'ai eu de la chance parce que dans mon centre de rééducation, les orthoprothésistes m'ont fait un plâtre pour essayer de mettre une prothèse. Et le premier jour où ils m'ont mis une prothèse, je pense que c'était peut-être un mois après, quelque chose comme ça, après la fin du process, pendant le process de cicatrisation, peut-être un petit peu plus tôt, bah, j'ai eu une énorme surprise puisque je me suis retrouvé entre des barres parallèles à essayer de marcher avec la prothèse. Et en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi du tout. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, mince, je peux pas revenir en arrière, qu'est-ce que j'ai fait?
C'est
Et donc, j'ai
le
passé une nuit ou une fin de
Tu
journée à regarder des vidéos où les prothésistes me disaient « Non, mais t'inquiète pas, en fait, la prothèse qu'on a essayée aujourd'hui, c'est pas celle que tu auras. Celle que tu auras, on va la recevoir demain. Et c'est vrai qu'on a des problèmes à fléchir le genou avec celle-ci, mais demain, ce sera bien mieux. » Donc, voilà, ils m'ont remotivé comme ça. Et le lendemain, j'ai reçu la nouvelle prothèse. Et dès les premiers pas, c'était magique. Et c'était ma reconstruction parce qu'en fait, après mon accident… Comme tout était bloqué, j'avais pas vraiment de réadaptation possible,
D'accord.
puisque je pouvais pas relever mon pied, je pouvais pas fléchir mon genou, donc j'avais pas vraiment de rééducation sur ce plan-là. En revanche, apprendre à marcher avec une prothèse, c'est une vraie rééducation, et pour moi, c'était un vrai cadeau, parce que à nouveau, je passais le pas.
Pour toi, d'un coup, tu passes, donc tu as eu ton accident et d'un coup, tu as un handicap, entre guillemets. Et comment on apprend à vivre avec un handicap? Parce que tu as eu cette phase où tu avais du mal à marcher avec ta jambe raide. Et après, on peut dire que même au moment où tu as eu ta prothèse, tu avais toujours le même handicap. Parce que, ou même en beaucoup, on va dire, aujourd'hui, cette perception de l'handicap, je veux dire, c'est plus ce mot-là
Ouais.
par rapport au regard des
Ouais.
autres. Parce que je sais que moi, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont cette peur du regard des autres. Ils sont, mais
Oui,
qu'est-ce que vont penser de moi?
c'est tout à fait naturel, et je pense que ça procède du parcours de résilience ou de reconstruction. Et c'est vrai qu'au début, avec ma jambe raide, j'avais l'impression que les gens me regardaient, qu'ils me regardaient bizarrement. Une partie de ma reconstruction qui a été sportive, quand j'ai commencé à jouer au golf, en fait, j'allais me cacher. Je me mettais dans un coin et j'essayais de taper des balles sans que les gens me voient. Jusqu'à ce que la secrétaire du club, qui voyait que je tapais plutôt bien dans la balle, me propose de faire une compétition et que je puisse jouer. Alors à l'époque, comme je ne pouvais pas marcher de longue distance, ça m'avait permis de jouer avec une voiturette. J'ai fait le parcours avec cette aide et j'avais gagné l'épreuve qui m'avait qualifié pour une autre. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à me parler de mes résultats, de mes scores, du fait que je jouais bien au golf. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le regard des gens sur moi a changé, puisque je pensais qu'ils me regardaient comme une personne différente, et d'un seul coup, ils me regardaient à nouveau comme un sportif, et un sportif qui réussit. Et il m'a fallu encore, je pense, une quinzaine de jours pour me dire, mais non, je suis idiot. C'est pas le regard des gens sur moi-même qui a changé, c'est mon propre regard sur moi-même qui est différent. Et donc, je suis aujourd'hui susceptible de renvoyer une image d'un sportif plutôt qu'une image d'une personne différente. Donc, je pense que le parcours, il est autour de ça. C'est de comprendre que quand on envoie un sourire, on reçoit un sourire. Quand on
Excellent.
envoie une colère, on reçoit de la colère, de la frustration. Et j'adore faire ce jeu sur les routes et plus particulièrement dans Paris où les gens sont assez énervés au volant. Et en fait, dès que tu freines, que tu donnes de la distance, que tu souris aux gens, les gens te sourient et tout se passe beaucoup mieux. Donc, je pense que l'appréhension est naturelle, mais que la communication, elle agit en effet miroir, et qu'une fois qu'on a compris ça, eh bien, on renvoie ce qu'on a envie de renvoyer.
Et aujourd'hui, quand tu as fait cette amputation, tu avais un objectif, c'était pouvoir remarcher et pouvoir refaire du sport, donc le golf, et après tu as fait la bascule vers le tennis, qui était ton sport de base. Comment tu as fait cette bascule et surtout, tu joues plus du tout de la même manière, entre jouer en étant debout et c'est un nouveau sport que tu as, bon, le haut, tu vois, mais tu as dû réapprendre à jouer au tennis et aujourd'hui, tu as un niveau juste extraordinaire, tu es professionnel et tu as gagné énormément de titres. Mais comment on fait ce passage-là? Et par où t'es passé, les étapes que t'as dû faire pour se dire, je vais devenir à 30 ans, t'avais après 30 ans, je crois, à l'époque.
Ouais, 34 même.
Ouais, 34, je vais devenir joueur professionnel et je vais tout gagner dans ma carrière.
Bon, alors la chance que j'avais, c'était d'être vétérinaire en exercice, que ce soit une profession libérale, et que je puisse me dire, je vais la mettre entre parenthèses pour essayer de devenir un joueur de tennis professionnel, et puis si ça marche pas, je redeviens vétérinaire. Donc j'avais pas trop de sujets du côté de l'emploi, où j'étais un peu préservé. En revanche, quand j'ai été amputé, je ne connaissais pas le tennis en fauteuil. Et mon sport, c'était vraiment le golf. Et c'est en jouant au golf, avec une chance incroyable, puisque j'ai rencontré le célèbre joueur de foot, Johan Cruyff, avec qui j'ai partagé d'abord une partie de golf en Espagne. Et ça faisait 2 ans que j'étais le numéro un en Europe de ce circuit, et que je rêvais de la création d'un circuit mondial. Et lui m'a dit, mais attends, c'est une super idée, on va travailler ensemble, et on va faire ce circuit mondial. Et il m'a présenté le directeur de sa fondation. On a commencé à bosser sur le sujet. Et très tôt, ils m'ont dit aussi, écoute, on est très impliqué dans un autre sport qui est super au point en termes d'organisation. C'est pas la peine qu'on réinvente tout pour le circuit mondial de golf. Va voir ce sport et on va le copier et faire la même chose. Et en fait, ce sport que eux soutenaient, c'était le tennis en fauteuil roulant. Et donc, je suis allé voir ce sport Et là, j'ai rêvé d'organisation, j'ai rêvé quand j'ai vu le niveau de jeu, parce que je pense que dès le premier jour, j'ai vu un gars qui était 17e mondial, et je me suis dit, si lui, il est 17 aujourd'hui, demain, je suis 16. Et je pensais, avec d'arrogance probablement, mais que mon niveau de tennis était différent de celui de ce gars-là, et j'avais aucune notion du déplacement au fauteuil, mais je me disais, si lui, il est 17, je m'assieds, et très rapidement, je vais pouvoir passer devant. Alors, il a fallu que je m'assieds dans un fauteuil. La transition, elle a été rapide parce que, à la suite de l'amputation, je pouvais pas jouer au golf au début. Et je me baladais en fauteuil roulant dans le centre de rééducation. Donc, j'ai vite pris une raquette, j'ai tapé avec une balle contre un mur. Et puis, en sortant du centre, je suis allé dans le club de tennis où j'avais vu cette épreuve. Et puis, très vite, j'ai eu envie de m'engager. Vraiment, je voyais bien que dès les premiers jours, en fait, je battais les gars du club. Et eux-mêmes qui connaissaient un peu le circuit me disaient, mais il faut absolument que tu t'y investisses à fond, on n'a jamais vu ça. Et donc je me suis inscrit à un premier tournoi, j'ai gagné ce premier tournoi, et puis très vite je suis arrivé en équipe de France, et c'était le début de l'aventure tennistique où j'avais plein de repères, et je me disais, dans cette histoire de numéro 17, moi je suis 16 demain, bah en fait j'avais été numéro 1 en Europe au golf. J'avais dans un coin de la tête que je venais pas au tennis pour être numéro 2. Donc j'ai cherché la place de numéro 1 mondial et j'ai construit mes objectifs autour de ça.
Et tu l'as eu à la fin, la
Et je l'ai
place.
eu. Et je l'ai eu, ouais.
Il t'a fallu
Je
combien
l'ai
de
eu à
temps?
la suite de ma première victoire finalement en Grand Chelem. Donc c'était Roland Garros en 2012. J'ai battu le numéro 1 mondial et en battant le numéro 1 mondial, je lui ai pris sa place. Et à la fin de l'année, j'ai obtenu le titre de numéro 1 mondial.
Il t'a fallu combien de temps pour passer de. Et combien d'années entre le moment où tu te mets à faire du tennis et le moment
Numéro.
où tu es numéro 1 et ce titre de Grand Chelem?
Alors, assis dans un fauteuil, je me suis assis pour la première fois en 2005. Ce titre du Grand Chelem, c'est 7 ans plus tard, en 2012.
En 7 ans.
Et enfin, ce titre et cette place de numéro 1, parce que en quelques mois, j'étais 37e mondial, et en un an et demi, j'étais 3e. Donc, je suis allé très vite, mais
Dans le
ça
top 3, et
rejoint la
après, c'était
question.
les dernières marches qui ont pris beaucoup plus de temps.
Oui, et ça rejoint la question que tu me posais tout à l'heure, c'est que en fait, moi j'ai appris à me déplacer dans le fauteuil, mais j'avais 17 ans de tennis derrière moi. Donc finalement, ce sont des sports qui sont très similaires parce que les coups sont les mêmes, l'appréhension de la compétition est la même, l'appréhension du terrain est très proche, même s'il y a une grosse différence de déplacement. Et la principale différence, c'est que comme il faut toujours être, voilà, je vais essayer de t'expliquer. Quand tu joues au tennis, debout, le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus court.
Oui.
Tu cours tout de suite vers le point. Au tennis en fauteuil roulant, le chemin le plus rapide, c'est celui pour lequel tu as gardé la plus grande vitesse en permanence. Et donc, ce n'est pas le chemin le plus court, mais ça se rapproche de la Formule 1, du
D'accord.
ski, des sports à trajectoire, où en gardant ta vitesse, tu vas parfois faire une courbe un peu plus importante, mais ça va te permettre d'aller plus vite vers la balle.
D'accord.
Et donc cette obligation ou cette façon de se déplacer, ça fait que de temps en temps, on est dos au filet, on fait des cercles, et donc on perd le contact visuel avec la balle. C'est la principale différence. Après, en termes de règlement, il y a une seule différence, puisqu'on joue sur les mêmes cours, les mêmes raquettes, les mêmes balles. Il y a une seule différence, c'est qu'on peut avoir un deuxième rebond. Ce deuxième rebond, il a été mis en place au tout début du tennis fauteuil pour permettre finalement la pratique. Aujourd'hui, on est en Grand Chelem entouré de statisticiens, on a tout ce qu'il faut. On sait que 83% du temps, on joue la balle au premier rebond et qu'on pourrait presque supprimer le deuxième rebond dans plein de matchs où les joueurs prennent même parfois aussi la balle de volée.
Bon. Et surtout, ce qui est inspirant dans ce que tu nous racontes pour les personnes qui nous écoutent, c'est cette résilience et cette envie, cette vision, et de se dire, je vois ce sport et j'ai vu le numéro 16, j'ai vu le 10 numéro 17, moi je vais être numéro 16 et surtout je vais être numéro 1 et je vais tout faire pour, parce qu'il y a plein de personnes qui passent par ces phases de c'est impossible, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, et qui restent dans le déni de leur maladie ou de leur handicap ou qui se plaignent, et toi aujourd'hui tu l'as utilisé comme une force.
En fait, c'est exactement le parcours de tous les gens à qui il se passe un truc. C'est d'abord de mesurer l'impossible, tout ce qu'on ne peut plus faire. On est tous en train de se dire, je pourrais plus faire ceci, je pourrais plus faire cela. Et puis, petit à petit, pour des raisons biologiques, par exemple pour moi, puisque après 15 jours de coma provoqué, à mon réveil, quand je voulais me nourrir, je prenais ma cuillère, je passais à côté de ma bouche. Donc, moi, il n'était pas question de taper dans une balle. Le cerveau avait tout débranché. Comme un enfant, j'avais cette maladresse. Ma proprioception était mauvaise et je passais littéralement à côté de ma bouche. Sauf que j'avais 25 ans, que j'étais pas un petit enfant, donc j'avais cette conscience. Et ma mesure de l'impossible était grande et j'ai défini des petits objectifs petit à petit. Mon premier objectif était de mettre la cuillère dans la bouche. Deuxième objectif était de pouvoir me lever de mon lit, d'aller dans une salle de bain seule, et de pas être soigné par lavé par les infirmières, même si quand tu as 25 ans au début, ça te fait marrer, mais pas toujours. Tu as quand même des inquiétudes autour de ça. Tu as des inquiétudes aussi autour du triptyque, comme je dis souvent, estime de soi, amour de soi, confiance en soi, puisque ton corps est modifié. Ton corps, a priori, tu l'appréhends différemment. Au début, tu l'aimes pas. Donc, tu n'imagines pas que quelqu'un puisse l'aimer.
Oui, bien
Donc,
sûr.
tu es dans un parcours quand même qui est assez négatif au début. Et avec ces petits objectifs, bah, tu te reconstruis. Et je fais pas abstraction, comme tu le disais, de certaines personnes qui ont du mal à remonter la pente et puis qui ont des parcours qui sont dépressifs, addictifs, voire suicidaires. Mais l'instinct de survie, c'est aussi celui qui te guide pour te raccrocher à des objectifs du quotidien petit à petit. Et comme moi, j'avais une image, je me suis construit autour de trois éléments. En fait, j'avais une grande base très solide qui était ma construction personnelle, comment j'allais retrouver amour de soi, estime de soi, confiance en soi. Juste au-dessus, j'avais une base qui correspondait à ma profession, le plan professionnel. Je savais que j'étais vétérinaire. Mais je me disais, aucun vétérinaire va vouloir travailler avec moi. Je travaillais avec les gros animaux. J'avais été formé sur les petits animaux. Donc peut-être que j'avais intérêt à basculer vers une structure que j'allais créer. Donc j'ai créé ma propre clinique vétérinaire. Et puis à travailler plutôt avec les petits animaux que les gros animaux. Et puis en haut de cette pyramide, avec une aire qui était beaucoup plus petite, j'avais l'image du sportif que j'étais quand j'étais plus jeune. Et plutôt du sportif qui gagnait. Donc pour parfaire cette reconstruction, petit à petit, j'y ai ajouté des objectifs sportifs. Et bah, au début, je ne pouvais rien faire d'ailleurs. Je jouais pas au golf. Je m'asseyais autour d'une table et je jouais au bridge. Un jeu de cartes où je faisais fonctionner que le
Le sport,
cerveau.
ça a vraiment été ta thérapie. C'est-à-dire, j'ai l'impression
Ouais.
que l'élément qui t'a permis d'avancer, que ce soit après l'accident et ensuite ce choix de l'amputation et autres, ça a toujours été le sport et t'as toujours fait du sport à haut niveau parce que même au golf, t'as eu un très bon niveau. T'étais champion européen d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Et aujourd'hui, est-ce que tu estimes que pas toute personne, mais qu'une personne qui est dans le même cas de figure que toi, quel que soit son handicap, ou qu'est-ce qui est-ce que le sport est une chose qu'une personne doit faire pour l'aider à avancer? Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.